Ok.
Bien, bonjour. Bon, je peux peut-être parler sans micro, je ne sais pas.
Si vous parlez fort.
Je peux parler fort. Mais bon, je peux aussi parler avec un micro. Voilà, donc je me présente, Patrick de Mougin. Je viens de parler de quelque chose qui est sûrement un peu ardu, la laïcisation des savoirs à la Renaissance. Les conditions d'une Renaissance, c'est le premier point que j'aborde. Et la semaine prochaine, un point qui se portera plus sur la question, disons, du rapport entre littérature et langage, et qui complétera, disons, ce point de vue sur la Renaissance. Alors la Renaissance est une période qui nous intéresse, me semble-t-il, parce qu'elle présente des éléments de perturbation qui ne sont pas sans rappeler un peu peut-être l'époque où nous vivons, et il y a beaucoup à creuser, je crois, à aller chercher dans cette période toute une série de questionnements concernant précisément la spiritualité, religion et société, parce que c'est une époque qui a été particulièrement troublée de ce point de vue, particulièrement aussi dynamique. Alors, l'intervention que je vais faire devant vous, mais vous me ferez des signes si celle-ci n'est pas adaptée, parce que on doit toujours un peu adapter son intervention en fonction d'un public. Je ne vous connais pas, je n'ai pas eu trop l'occasion de venir. Alors, peut-être me présenter rapidement, je ne sais pas si c'est l'usage de dire qui on est. Voilà, donc plusieurs casquettes. J'ai travaillé en termes de recherche sur le XVIe siècle et sur des textes sur les démons au XVIe siècle. C'était ma thèse. Et je continue à travailler dans un laboratoire de recherche à Paris sur ces questions qu'on appelle les questions démonologiques. Donc, c'est une sorte d'élément qui me suit depuis un certain temps, mais qui n'est pas central dans ma pratique, parce que par ailleurs, je suis directeur de l'IFM de l'Académie Montpellier, et je m'intéresse beaucoup plus à des questions très concrètes de didactique du français, de didactique, d'ingénierie pédagogique, comme on dit. Bref, j'ai une autre manière d'exister qui n'est pas tout à fait la même, qui n'a même pas grand-chose à voir avec ça. Voilà, mais bon, je pense qu'il faut savoir aussi, un peu à la manière des hommes du XVIe siècle, être très divers dans ses approches, et savoir... faire son miel avec un peu tout ce qui se présente, et c'est mon cas, mais je ne suis pourtant pas un homme du XVIe siècle, ni du XVIe arrondissement. Alors, je retourne mes lunettes d'abord, ça me donne un peu. Ce dont je voudrais vous parler, ce sont les choses suivantes. Quelle vision avons-nous du XVIe siècle, je ne reviendrai pas sur les termes, je pense qu'ils ont été largement explicités, et ils demandaient à être précisés, mais vous l'avez fait, ou si vous avez suivi ces conférences, je suppose, entre spiritualité, le sacré, le surnaturel, toutes ces questions-là ne disent pas la même chose, tous ces mots-là ne disent pas la même chose. Globalement, nous avons une vision de ce XVIe siècle comme une période de laïcisation des savoirs, c'est-à-dire qu'il s'écarte progressivement de toute la dimension religieuse, ou qu'il s'écarte de certains aspects liés au sacré, et qui est fondée, cette laïcisation, sur des transformations sociales, politiques, religieuses, que l'on connaît bien, et dont la littérature porte trace. Donc c'est un peu à cette première vision que je m'attacherai, mais c'est une vision, il faut s'en méfier, qui est très linéaire, une sorte de vision d'un progrès linéaire. Le XVIe siècle serait, disons, avant le XVIIe et après le XVe, quoi. C'est une sorte d'évidence que le XVIe précède une époque de mise en ordre classique et suit une période qui a été, disons, un peu plus complexe, la période de la fin du Moyen-Âge. Mais en fait, les choses ne se passent jamais comme ça. Il n'y a de linéarité dans l'histoire que pour qui veut la lire rapidement a posteriori. Alors, bien sûr, la rupture de l'âge classique est importante, avec des auteurs aussi importants que Descartes, Malebranche, Fontenelle, un auteur moins connu, Gabriel Naudet, qui a écrit une apologie pour tous les grands hommes qui ont été faussement soupçonnés de magie. Et là, c'est le début véritablement de la période classique où on commence à prendre une distance par rapport à toutes ces accusations qui ont pu naître pendant tout le XVIe et la fin du XVIe siècle autour de la magie, la sorcellerie, des rapports, disons, avec la gnose, avec tous les courants néoplatoniciens, je pourrais peut-être un peu revenir sur ces termes, mais tous ces courants qui postulaient en gros une existence forte du surnaturel, et une présence au cœur même du quotidien du surnaturel. Et Gabriel Naudet est un de ses premiers rationalistes, d'une manière très modeste, reprend les grands philosophes accusés de magie, comme Jean Blic, chez les néo-platoniciens, dans les premiers siècles de notre ère, et montre qu'en fait, ce n'est pas du tout des magiciens, des mages, des hommes qui travaillaient, disons, sur le surnaturel. Et le XVIe siècle, que va-t-il faire? Il va amener à distinguer cause spirituelle et cause matérielle, à opposer clairement les deux. Ça, c'est le XVIIe siècle qu'il mettra en place. Et les critères de l'expérience et de la preuve vont devenir prédominants. Je reprendrai, mais je crois que c'est la diapo suivante. Oui, donc je le lirai tout à l'heure. Et c'est le doute cartésien qui va ouvrir à la philosophie, alors qu'en face d'elle et à côté d'elle, on va fixer des genres littéraires, on va fixer des canons esthétiques, et ça va donner les belles lettres, la littérature. Et ça, c'est un phénomène qui se passe à partir, disons, de 1630 à peu près, enfin 1630, 1650, les spécialistes pourraient discuter de la coupure forte. Mais cette coupure-là est importante et elle s'organise à partir de ce premier quart, disons, du XVIIe siècle. Alors, pourquoi cette coupure et qu'est-ce qu'il y a avant? C'est un peu la question que je voudrais poser. Je reprends un grand ancien, Ernst Cassirer, hein, qui dans son ouvrage de référence dans les années 30, hein, Individu et Cosmos, définit très clairement les choses. Je vous laisse lire, hein, vous arrivez à lire, je pense, c'est assez gros. Vous voyez à peu près les idées fortes de ce texte. Cette idée de la preuve qui n'est pas toujours présente, puisque les conditions même de l'expérience ne sont pas encore posées. Et on est dans une période, il dit, de faits singuliers qui s'accumulent, dans un foisonnement bigarré, mais aussi dans un désordre absolument chaotique. Alors on peut critiquer cette idée de désordre absolument chaotique, mais c'est vrai que la période du XVIe siècle est considérée comme une sorte de période un peu confuse, où en gros les idées ne sont pas encore mises en ordre, pour le dire simplement. Et toute la question, c'est de savoir comment on va passer de représentations théocentrées, centrées sur Dieu, hein, à des représentations centrées sur l'homme, anthropocentrées. C'est ça le grand mouvement qui va se produire à cette période. Alors, je vous propose le plan suivant, si c'est un plan, je ne sais pas, enfin, ce parcours. D'abord, repartir de notre représentation, est-ce qu'on sait? Je suis pédagogue par ailleurs, donc côté UFM, ça peut être. Mais repartons de ce que l'on sait. Et de comment on se le représente, c'est ce mouvement vers la laïcisation, cette représentation d'un progrès. Hein. Donc on va repartir sur ce chemin-là et le vérifier. Puis on va s'apercevoir qu'il n'est peut-être pas tout à fait pertinent, et à ce moment-là, je vous amènerai plutôt sur un autre chemin, celui de ce syncrétisme des savoirs et du statut de la littérature, bref, sur l'idée que ce mouvement n'est pas aussi linéaire et progressiste que l'on croit. Hein. Et on passera à une étude de cas, pour finir, mon domaine un peu plus précis, les textes démonologiques qui montrent très bien comment, à la fin de la Renaissance, vraiment entre 1550, mais surtout 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, donc voilà, c'est 40-50 années-là, on voit émerger au sein de ce qu'on appelle la res literaria, donc c'est la chose littéraire, c'est-à-dire l'ensemble des textes écrits. Et ça, je crois que je l'explique à un moment donné, mais la littérature au XVIe siècle n'existe pas comme aujourd'hui. Hein, on a ce qu'on appelle la res literaria, res la chose, littéraire, literaria, c'est-à-dire l'ensemble des textes produits par l'homme, pour l'homme, sur l'homme, qui n'inclut pas les lettres sacrées, qui sont autre chose, mais qui regroupe en revanche un ensemble de connaissances assez incalculables. Hein, on peut avoir des ouvrages qu'on dirait aujourd'hui scientifiques là-dedans, on peut avoir de la poésie, on peut avoir tout tas de choses, hein, tout ce qui est écrit. Et donc, je terminerai par là. Alors, le mouvement vers la laïcisation, essayant de nous souvenir de notre école primaire, de notre collège, peut-être de notre lycée, tient à quelques éléments simples, hein, que je vous indique ici. Alors, j'avais tout un texte très précis, mais je ne le reprends pas directement. Je préfère parler un peu librement par rapport à ce PowerPoint. Des transformations matérielles et intellectuelles, bien évidemment l'imprimerie. L'imprimerie dont il ne faut pas sous-estimer la force, hein, de transformation, qui vont se traduire par des traductions en langue qu'on appelle vernaculaire, c'est-à-dire en français pour l'essentiel, et puis des apparitions dans les trois langues, des textes dans les trois langues de référence, des savoirs, la langue hébraïque, la langue grecque et la langue latine, trois langues qui sont véritablement porteuses de savoir. Et on va avoir des mouvements entre ces différentes langues, hein, du latin au français, de l'hébreu au latin, du grec, etc., au français, etc. On va se situer de traduction, très fortement. Le deuxième point qu'on envisagera, c'est les transformations politiques et religieuses. Là, c'est la réforme protestante, bien évidemment. Et puis des auteurs comme Bodin, Machiavel, qui commencent à poser les fondements d'une pensée politique et d'un droit qui ne sont pas entièrement liés à l'idée du sacré, à l'idée qu'il y a un Dieu qui est organisateur du monde créé. Alors, il ne le conteste pas non plus, bien évidemment. Mais ils commencent à organiser leur réflexion à partir de pratiques politiques et sociales. Et ces deux auteurs, Baudin et Machiavel, sont particulièrement intéressants de ce point de vue. Je n'aurai pas le temps de les développer beaucoup, mais je les mentionnerai avec quelques extraits. Et puis, les transformations culturelles et épistémiques, alors il faut préciser les termes, elles sont culturelles au sens général, c'est-à-dire que les pratiques sociales en général, hein, aussi bien la nourriture d'ailleurs que les arts, se transforment à cette époque. La grande question, c'est les Indes, la découverte des Indes, c'est-à-dire à la fois de l'Amérique, évidemment d'un côté, depuis 1492, mais aussi le développement de tous les voyages vers l'Est, vers la Chine, vers le Japon, vers le Nord, vers le Sud. Et je reviendrai un peu sur les... Alors j'ai mis quelques noms d'explorateurs, Jean de Léry, Léon l'Africain, Pierre Martyr, Joseph d'Acosta, Jacques Cartier, Pigafetta, etc. Enfin, non, les explorateurs ne manquent pas. Il faudrait rajouter quand même tous les jésuites aussi qui vont se promener, pas pour se promener d'ailleurs, mais qui vont voir jusqu'où ils peuvent évangéliser, et notamment au Japon ou en Chine, et qui envoient des lettres régulièrement. Donc c'est un siècle qui s'informe sur un espace nouveau. Et puis il y a donc des auteurs dont vous connaissez, je suppose, les noms, Copernic, un P suffirait d'ailleurs peut-être, Nicolas de Cuse, Giordano Bruno, il faudrait rajouter Galilée, Kepler un peu plus tard, etc. Tous ces auteurs qui vont commencer à penser un peu autrement aussi le cosmos, l'organisation des sphères célestes, en essayant de, là aussi, repartir d'éléments qui ne sont pas ceux sur lesquels reposait, disons, la conception ptolémaïque du monde, hein, qui était celle en vigueur au Moyen-Âge et jusqu'au début du XVIe siècle. Alors vous voyez, je repars de choses qui peut-être vous parlent. Ce sont les planches rossignoles de nos vieux cours du primaire. Voilà pour le premier point, pour illustrer le premier point et l'imprimerie. Bien évidemment, en bas, le texte imprimé, c'est la Sainte Bible. Et le lien avec la Réforme est évident, hein, dans ces planches rossignoles qui ne sont pas fausses. Moi, je n'aime pas, disons, renier ce côté parfois qu'on pourrait dire primaire de l'éducation quand elle essaie de développer des idées qui permettent à des élèves de se fixer des repères. Et là, c'en est une, c'est-à-dire que ça permet de construire quelque chose qui n'est pas faux, qui n'est pas suffisant pour comprendre le siècle, mais qui n'est pas faux. Et c'est cette idée que l'imprimerie, donc au milieu du XVe siècle, hein, va transformer radicalement les choses, qu'elle va amener des transformations donc intellectuelles et matérielles, les traductions, je l'ai dit, dans les trois langues de référence. Derrière cela, qu'est-ce qui va apparaître? Ce sont les fameux collèges royaux, hein, collège d'Harcourt, collège, futur collège de France, hein, le collège des lecteurs royaux, des collèges qui apparaissent aussi dans les villes de province. Alors je n'ai jamais travaillé directement sur Nîmes, donc je ne sais pas si à cette époque on étudie le grec à Nîmes, mais je pense que oui. Hein, enfin, j'ai travaillé sur Angers, par exemple. On étudie le grec à Angers, on l'étudie dans toutes les grandes villes universitaires aussi, bien sûr. Bref, l'hébreu aussi. C'est le développement, hein, le très fort, de toute une floraison de textes qui vont circuler. Et par certains côtés, je n'aime pas trop les raccourcis, mais je prendrai quand même volontiers celui-là. Il me semble que le XVIe siècle, si on veut se donner un repère aujourd'hui, découvre à peu près dans les mêmes termes que nous découvrons Internet, ce que apporte un outil matériel qui fait circuler du savoir de manière brutale, violente, et pas toujours contrôlée. Et ce qui se passe au XVIe siècle est un petit peu, peut-être par certains côtés, pour vous donner un point de comparaison, un point qui image un peu les choses, avec ses limites, hein, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui donne accès à un savoir qui ne rend pas forcément plus critique par rapport à ce savoir, mais qui amène à le faire circuler énormément. C'est bien la problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui, et là c'est plutôt ma casquette, pédagogue, formateur, etc., en charge de la formation des enseignants qui parle peut-être. On sait bien qu'avec Internet, on est sur ces questions-là aujourd'hui. Hein. Plus de savoir, mais peut-être moins ordonné, et des approches de ces savoirs qui posent des questions tout à fait nouvelles et qu'on ne sait pas encore trop maîtriser. Alors, que disent les textes à l'époque? Bien sûr, il y a des textes littéraires, puisque mon propos, c'est de montrer comment la littérature est à la fois indice et acteur de ce changement. Ce texte de Rabelais, vous avez dû certainement le faire quelque part, enfin, ou du moins vous connaissez la situation. Ce sont des textes que j'appelle canoniques, patrimoniaux, qui portent en effet cette image de ce que je vais appeler progressivement un beau XVIe siècle, un XVIe siècle de progrès. Et là, c'est l'éducation de Gargantua, et c'est son père Grand Bousier, hein, qui l'explique. je vous laisse découvrir le texte. La seule idée qu'a bien évidemment Grandbousier pour former son fils, c'est de le confronter à un docteur sophiste, hein, donc Holoferne, de surcroît le capitaine de, le général de Nabuchodonosor, hein, avec une référence biblique indirecte ici, et puis le Donac et la grammaire latine du Moyen-Âge, des traités qu'on a tout à fait oubliés, de bonne mœurs, de comportement, hein, dans les autres textes. Et vous voyez bien que la question de l'imprimerie est présente, hein, et c'est un peu un commentaire du tableau précédent. Notez que cependant, il lui apprenait à écrire gothiquement, donc dans l'écriture médiévale, et écrivait tous ses livres, car l'art d'impression n'était pas encore en usage. Donc, la question de l'imprimerie, elle est ressentie comme telle à l'époque, hein, comme un élément fort, important, et qui ordonne aussi toute une série de transformations. Ce texte de Rabelais, hein, encore une fois, nous donne probablement l'idée que ce 16e siècle, tout début du 16e, hein, nous sommes en 1534, ce 16e siècle est un siècle qui commence à construire par l'imprimerie, par cette critique des savoirs médiévaux, hein, c'est cette moquerie sur le sophiste médiéval, commence à construire un savoir nouveau de type moderne. Et on retrouve aussi l'éloge de la folie d'Erasme est aussi de ces textes qui provoque un véritable saut qualitatif, disons, dans la manière de concevoir le monde. J'ai encadré rapidement le petit passage qui lui aussi fait référence à une critique de la connaissance, non pas des savoirs. Critique de la connaissance qui met en cause la manière dont le peuple, mais le peuple des chrétiens, hein, les gens qui sont sans contredit tout à fait des nôtres, c'est-à-dire les chrétiens, prennent plaisir, voire avec avidité, hein, à écouter les histoires incroyables de spectres, d'esprits, de revenants, d'enfer et tous les autres prodiges de cette espèce. Et vous verrez que dans les derniers textes sur les démonologues que je produirai à la fin, qui sont des textes alors imposés de catholiques, qui sont dans la contre-réforme, qui veulent au contraire prouver qu'il y a bien des miracles, qu'il y a bien des saints, et que toutes ces choses-là, il ne faut pas les prendre à la légère comme le font les protestants, par certains côtés, vous verrez que la critique est la même quand même. C'est-à-dire qu'on regrette la crédulité populaire, on regrette la naïveté du peuple qui est prêt à croire un peu tout ce qui se présente. Donc on est sur des problématiques qui ne sont pas non plus aussi tranchées qu'on pourrait le croire. Et c'est la conclusion qui est différente. J'ai souligné à la fin du texte, je reviens, m'échappe ce texte, voilà, ce dernier qui est encadré en bas, ça c'est la réponse d'Erasme, ce ne sera pas bien évidemment la réponse des militants de la contre-réforme catholique à la fin du siècle, à un siècle de distance. Il dit que ces miracles, hein, ces spectres, ces phénomènes merveilleux ont une utilité bien plus solide. Ces phénomènes servent à faire bouillir la marmite des prêtres et des moines. Et là, on entre dans une critique de la religion. Alors qu'à la fin du XVIe siècle, on sera à peu près sur les mêmes constats de crédulité, de surabondance du surnaturel, qui contrarie la connaissance, en fait, hein, et qui est un frein à un développement de la connaissance. Mais on n'aura pas, du côté catholique, bien évidemment, les mêmes conclusions. Je vous prends aussi un texte qui nous montre toute cette savant dosage que qu'opère le XVIe siècle, au moins dans ce début de XVIe siècle, 1548, c'est Marguerite de Navarre est morte, ou pas loin de mourir, en tout cas, enfin, c'est la fin de sa vie, là, je crois qu'elle meurt en 49. Marguerite de Navarre, donc sœur de François Ier, grande dame, hein, je vous en parlerai la semaine prochaine un peu plus, hein, qui séduit par beaucoup d'aspects, une femme très, très exceptionnelle, véritablement, a écrit cette comédie de Mont-de-Marsan, qui est du théâtre profane, mais qui en fait met en scène sous forme d'allégorique, hein, ce sont des allégories, disons, la sage, la superstitieuse et la mondaine, hein, qui n'apparaît pas dans ce petit dialogue. Et la superstitieuse veut bien sûr sauver son âme, mais pour sauver son âme, elle veut détruire son corps. Vision radicale de la religion, qui oblige à faire le choix binaire de l'âme du corps. Et donc dans ce cas-là, bien évidemment, c'est l'âme qui prime. Et la sage, qui représente en fait ici la voix de Marguerite de Navarre, et derrière Marguerite de Navarre, tout ce courant qu'on appelle le courant paulinien, c'est-à-dire qui se fie plutôt au message de Paul dans la Bible, hein, dans le Nouveau Testament, un message où l'homme est quand même, c'est la nature humaine du Christ qui parle plus que les exigences spirituelles absolument incontournables de l'Ancien Testament ou d'autres textes du Nouveau Testament. Et c'est le Lefèvre d'Étaples, c'est Erasme qui sont ses amis. Donc c'est cette sphère qui commence à poser les jalons de ce qui deviendra la réforme, avec Luther et Calvin un peu plus tard. Et là, vous voyez que sa réponse, la réponse de la sage, mais qui est la réponse de Marguerite, hein, « Premier voulait le corps détruire, que votre âme en vertu instruire, serminer tout l'édifice. » Donc cette idée très simple, très forte aussi, que c'est par le corps aussi qu'on est sauvé, et pas seulement par l'âme, que le corps est quelque chose d'essentiel. Et vous verrez que c'est une idée qui va suivre aussi pendant tout le XVIe siècle. Le XVIe siècle est le siècle du corps. On s'occupe des corps au XVIe siècle. Alors, on s'occupe des corps parfois pour les martyriser, pour les brûler, pour les torturer, bien évidemment. Mais on s'occupe du corps aussi pour ce qu'on appelle le passe-temps d'amour, pour tous ces moments aussi de développement de tout ce qui fait le parfum. Hein, il y a des écrits là-dessus que vous connaissez peut-être. De tout ce qui va faire aussi le développement des sports, enfin du des-sports, comme on dit plutôt à l'époque, tout ce développement de l'activité physique dans une vision déjà moderne. Alors, j'en viens au point 2 de cette première partie, les transformations politiques et religieuses. Bien sûr, c'est une période de centralisation du pouvoir royal, je ne décrirai pas le détail, hein, ça me prendrait beaucoup de temps, mais c'est aussi le moment de la réforme protestante appuyée sur des forces sociales neuves, liées au commerce, liées à la paysannerie aisée, et une réaction catholique qui, elle, va s'appuyer progressivement sur les forces féodales menacées, sur les grands, et le pouvoir royal va osciller entre les deux, va essayer de régler sa position dans toute, au moins la deuxième partie du siècle, hein, entre ces deux forces sociales importantes. Et que retient-on de tout cela? Bien évidemment, la contestation du dogme catholique, très forte, dans les polémiques nées de la réforme, cette tendance que je viens de décrire comme paulinienne, hein, en référence à Paul, qui va essayer de construire des valeurs centrées sur l'humanité du Christ. Mais ça va se traduire aussi par, progressivement, l'affaiblissement du rapport entre le politique et le sacré. Hein, et on va avoir des textes qui vont apparaître, alors pas en France, Machiavel, Florence, hein, Italie du Nord, problème des cités qui doivent se construire par rapport au pape, par rapport à l'empereur, donc dans une situation difficile. Et ce texte de Machiavel, qui pose de manière extrêmement brutale la question du pouvoir, est un pouvoir qui n'est plus conçu dans le rapport à Dieu, qui n'est plus conçu comme la mise en ordre qu'il faudrait construire à partir d'un ordre créé par Dieu. Alors, comment dire, le texte de Machiavel est relativement original et isolé, mais le XVIIe siècle, avec Bossuet, par exemple, dans l'Histoire universelle, reprendra, au contraire, développera cette logique d'une vision universelle du temps, hein, d'un temps universel qui englobe, bien sûr, les origines, et commence à Adam et Ève, hein, et au péché, et qui se continuera avec l'histoire du Christ, et qui intègre l'histoire contemporaine. Mais, avec Machiavel, on a cette manière de penser le politique, de manière extrêmement pragmatique. Et quand on lit ce début de texte, on est frappé, on pourrait l'appliquer, je dirais, à l'Algérie, à l'Afghanistan, dans une histoire récente. C'est vrai de toute situation de conquête, quand on va à la conquête d'un peuple qui vit sous ses propres lois. Quand les provinces ou les cités conquises avaient coutume de vivre, comme j'ai dit, en liberté, sous leurs propres lois, il y a trois façons de s'y maintenir. La première est de les détruire. La seconde, d'y aller demeurer en personne. La troisième, de les laisser vivre selon leurs lois, en prélevant des tribus après y avoir établi un gouvernement peu nombreux qui te conservera leur amitié. Voilà, une manière extrêmement brutale, mais en même temps totalement clivée d'avec la dimension sacrée, de manière totalement profane, de commencer à poser très clairement des questions de politique. Et ce n'est pas un hasard si Louis Althusser, dans Machiavel et nous, hein, reprendra dans les années 70 cette réflexion et la commentera dans ce petit livre, hein, Machiavel et nous, dont Étienne Balibar vient de faire reparaître, avec une préface rajoutée, une édition en 2009, où il commente justement cette rupture fondamentale de la pensée du politique qui s'opère avec Machiavel. Et ici, c'est pourquoi un prince devenu tel par la faveur... Alors c'est le problème là des grands et du prince, c'est-à-dire de l'aristocratie et du roi, hein, pour la France. À Florence, en effet, c'est le prince et les grands, les grandes familles. Et là, voilà encore une réflexion extrêmement simple. Hein. C'est pourquoi un prince devenu tel par la faveur du peuple doit préserver son amitié. Ce qui sera facile, celui-ci ne demande rien d'autre que de n'être pas opprimé. En revanche, le prince créature des grands contre le peuple doit avant toute chose chercher à les gagner. Ce qui sera facile également, etc. Pourvu qu'il le prenne sous sa protection. Je ne dis pas que ce sont des modèles de pensée démocratique, ce ne sont pas des modèles de pensée moderne, bien évidemment, de l'histoire et du pouvoir, mais c'est extrêmement moderne dans la manière de commencer à construire une rationalité propre aux politiques. Hein ? Politique réagit à des lois qui lui sont propres, et Machiavel est en train de les inventer à partir de l'observation des cités italiennes, notamment de Florence, confrontées à ces pouvoirs extérieurs qui les menacent. Voilà donc sur les transformations politiques et religieuses, et puis des transformations culturelles et épistémiques, autre planche rossignol, qui vous rappelle peut-être des souvenirs. Donc c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Vous remarquerez que les choses se passent fort bien, hein, et qu'on n'a pas l'impression qu'un génocide se prépare. On est ici dans une vision d'un beau XVIe siècle, hein, et c'est ce que produisent ces planches rossignol, ces images d'Épinal, à usage des enfants, mais des enfants des années que nous étions peut-être, parce que nous sommes un peu blanchissants, quelques-uns, ici, mais des enfants encore d'il y a moins longtemps, qui n'ont pas encore blanchi sous le harnais. Ces planches-là, il y a quelques enseignants ici, traînaient encore dans les écoles primaires, on peut encore les voir dans quelques communes du Gard un peu reculées. Elles sont toujours au fond de la classe, et c'est très bien. Hein. Donc ce sont ces représentations qui montrent à la fois ce que le XVIe siècle appellera le bon sauvage, hein, un sauvage qui a des usages familiers, amicaux, et un conquérant qui, bien sûr, est armé, mais qui vient dans une posture, disons, de découverte et d'ouverture par certains côtés. Voilà donc le troisième point que je voulais aborder en première partie. Cette question de la découverte de l'Amérique et tout ce que ça va impliquer comme transformation culturelle. Ici, le texte de Montaigne, l'apologie de Raymond Sebond, hein, qui est au cœur des essais et qui constitue quasiment un livre à part, est un moment tout à fait intéressant. Alors j'ai mis les dates parce que Montaigne, ses textes sont régulièrement repris, donc il y a trois états du texte sur ce texte, mais peu importe, ça c'est pour une affaire de spécialiste, disons. Ce que j'aime bien dans ce texte, et je vous le propose pour cela, alors j'aurais pu prendre le chapitre des cannibales, bien sûr, où Montaigne parle de sa rencontre avec des sauvages, un sauvage, ou de nom, quelques-uns, Armand, hein, ramené par les hommes, en effet, des grandes découvertes. On connaît la position de Montaigne, donc je n'y reviens pas. Mais c'est tout ce que cela a pu provoquer comme transformation sur la manière dont on concevait le savoir, disons, hérité de l'université. Et dans ce petit texte, il dit très clairement que sa maison, là c'est le deuxième paragraphe, hein, a été de longtemps ouverte aux gens de savoir et en est fort connue, car mon père, qui l'a commandé 50 ans et plus, échauffé de cette ardeur nouvelle de quoi le roi François Ier embrassa les lettres et les mit en crédit, rechercha avec un grand soin et dépense, avec grand soin et dépense, pardon, je lis très mal, l'acquaintance des hommes doctes, les recevants, etc. Et donc il rappelle qu'il est d'une famille, disons, de lettrés, mais qui n'avait pas d'origine lettrée. Et j'aime bien sa phrase qui clôt le chapitre. Les sciences, moi je les aime bien, mais je ne les adore pas. Et donc c'est cette position de retrait par rapport au savoir qui est très moderne aussi chez Montaigne, qui marque le siècle et qui légitime encore une fois ces belles images qu'on vient de voir, tant celles de l'imprimerie que celles des grandes découvertes. Hein. Des hommes nouveaux apparaissent comme Montaigne qui prennent une distance par rapport au savoir, même au savoir moderne, hein, quand il parle de ce qui se passait chez lui, ce ne sont pas des savoirs sclérosés du Moyen-Âge, ce sont des savoirs modernes. Eh bien, ces savoirs modernes, il les aime bien, mais il ne les adore pas. Et la position d'adoration de la science ou du savoir est en effet quelque chose qui naît aussi ce refus de la vénération des savoirs, de l'argument d'autorité, d'un rapport, je dirais, de soumission au savoir, est quelque chose de très fort au XVIe siècle qui le construit comme un siècle très moderne. Et tout cela, vous voyez bien, participe d'une laïcisation des savoirs, d'une sortie progressive des savoirs, de l'influence religieuse et du rapport au sacré. L'homme est maintenant au centre. Alors je finirai par cette image, elle sera la dernière, après nous n'aurons plus, plus droit aux images. Hein, donc, pour finir le beau 16e siècle, je finis par une image, le château de Chambord. Voilà, tout est dit dans le château. Je crois que ce château, et la manière dont vous nous présentez à l'école, mais encore une fois, c'est d'une manière tout à fait juste sur le fond, le présentait, sans le dire clairement, mais comme la métaphore même, la concrétisation par la métaphore de tout ce que le XVIe siècle avait transformé et pensé de nouveau. L'homme est au centre, bien évidemment, on le voit ici, et c'est pas n'importe qui, c'est François Ier, on le reconnaît à sa barbe, à son chapeau. L'homme est au centre, l'espace s'est démilitarisé, la nature est présente dans cet espace, mais une nature à la fois sauvage et ordonnée, vous avez tout dans le tableau, hein. La nature ordonnée autour du château, la nature sauvage en dehors du château, vers laquelle ils vont puisqu'ils partent à la chasse. Donc, vous voyez, vous avez ces deux natures, une nature réglée et une nature sauvage. Vous avez cette présence de l'homme au milieu et cette démilitarisation de l'espace qui se manifeste par ce château avec ses grandes ouvertures, ses fenêtres, cette respiration de la lumière et de l'air, hein, qui devient maintenant possible. Les pièces d'eau qui sont aussi contrôlées. Bref, un rapport à la nature qui va être radicalement moderne, puisque c'est une nature qu'on maîtrise, qu'on contrôle, et dans laquelle on n'a pas nécessairement le besoin de se défendre, même si vous remarquez quelques hommes en armes, mais les hommes en armes sont plus décoratifs qu'autre chose, hein, cette espèce de garde suisse, hein, et puis s'ils sont armés, c'est pour la chasse aussi. Donc, le château de Chambord, les châteaux de la Loire, concrétisation métaphorique de ces transformations perçues comme une marche régulière vers le progrès, la mise en place des conditions politiques, religieuses, culturelles qui autorisent à penser le monde autrement que dans une représentation strictement théocentrée. Dieu s'est un peu absenté de ce monde-là, je pense. Alors, ça c'est ce que l'on peut dire à l'issue de ce premier voyage, hein, j'ai eu Machiavel, j'ai pas mentionné le texte de Bodin, tant pis. Avec Bodin, avec Machiavel, avec ces textes politiques que nous avons vus, avec ces distances prises par les textes de Montaigne, mais aussi de Rabelais, sur la question du savoir, sur la question de la crédibilité populaire. On est bien dans un mouvement, je dirais, ascendant, hein, qui semblerait nous amener vers un rapport au savoir de type moderne, critique, qui rompt avec la période médiévale et qui augure déjà très fortement de ce que sera l'organisation du XVIIe. Donc, résumé plus technique, fin du beau XVIe siècle. Alors, ce n'est pas chronologique tout à fait. Le beau XVIe siècle, il ne s'achève pas à la moitié du XVIe siècle. Il continue, mais il est déjà pas très beau au début. Hein. Les choses sont plus compliquées, c'est ce que je vais voir maintenant. Mais pour fixer quand même les idées, une conception paulinienne de la foi, hein, donc qui amène à la réforme protestante, des points de vue sceptiques et stoïques, comme on dit à l'époque, pour stoïciens, hein, les sceptiques, les stoïques permettent de construire des postures nouvelles qui étaient absentes de la période de la fin du Moyen-Âge et qui se construisent en référence à l'Antiquité. Donc, point de vue sceptique, qui ne va pas jusqu'à un athéisme avéré, bien évidemment, hein, on ne nie pas l'existence de Dieu, mais on postule une série de questions bien embarrassantes quand même, et dans lesquelles Dieu n'a pas toujours sa place pour y répondre. Un naturalisme exacerbé, c'est-à-dire que la nature, la grande question du XVIe siècle, c'est la nature avec un M majuscule. La nature est au cœur de toutes les préoccupations, parce que qui dit nature dit surnature, supernaturelle, comme on dit à l'époque, pour ne pas dire surnaturelle. Donc on a à côté de cette nature, la surnature, et on a Dieu. Et tout ça s'articule. Mais l'entrée par laquelle on va essayer de penser le monde, je passe bien sûr, c'est très synthétique ce que je dis, et on pourrait contester sur tel ou tel point, mais globalement, on essaye de penser le monde à partir de la nature et de la vie de l'homme dans la nature. Mais, et ce qui dément déjà l'idée que ce beau XVIe siècle est très moderne, le rapport au sacré ne se dément pas et s'amplifie au contraire, et envahit peut-être beaucoup d'éléments de la vie ordinaire, beaucoup plus qu'on ne le pense. Alors ce n'est pas négatif, mais qui n'amène pas directement, en tout cas, une pensée critique. Une rationalité qui ne pose pas les critères d'expérience susceptibles de transformer la nature des savoirs. Je renvoie au texte de Cassirer que j'ai présenté au tout début. On est très rationnel au XVIe siècle. Mais la rationalité ne veut pas dire qu'on s'émancipe d'un cadre religieux et spirituel. C'est une rationalité appliquée au spirituel, c'est tout. Et qui ne pose pas les problèmes qui fonderont la science et la philosophie de ce qu'est l'expérience et la preuve. Donc on va développer des raisonnements mais hallucinants de qualité argumentative, bien évidemment, au 7e siècle. On argumente énormément et de manière très très fine et très forte. On oublie juste, bien évidemment, un élément qui ne sera possible qu'après Descartes, c'est qu'est-ce que je suis pour le penser, le cogito cartésien, qu'est-ce que mon expérience, comment je peux la valider, et qu'est-ce qui fait preuve d'un scientifique. Voilà. Et puis des mouvements contradictoires dans la res literaria, là on a vu quelques grands textes hein, de Montaigne, de Rabelais, bon, ces grands textes canoniques qui étaient dans les Lagardes et Michard, ces textes qui nous permettent de penser un 16e siècle, encore une fois un beau 16e siècle, un 16e siècle tourné vers des évolutions décisives. Maintenant, essayons de déchanter un peu. Syncrétisme des savoirs, statut de la littérature, les choses ne sont pas si simples. D'abord, singularité des grands textes. Sont-ils véritablement représentatifs des mouvements en profondeur dans la société ? Alors on pourrait appliquer cette question un peu à tous les grands textes. Ils sont probablement des grands textes parce qu'ils sont largement en décalage avec ce que pense une voix moyenne, disons. Les textes que j'ai indiqués, les 100 nouvelles, les propos rustiques de Noël Dufay, les Heptamérons, je ferai quand même une catégorie à part pour les Heptamérons de Marguerite de Navarre que j'aime bien, vous l'avez compris. Mais, même le Symbol Mundi qui est un peu particulier. Mais ces textes ne sont pas, par exemple, exactement de la même veine que celui de Rabelais. Tout ça, ce sont des textes narratifs. Celui de Rabelais est quand même très à part. Et donc, on a appuyé sur Rabelais tout à l'heure pour voir la critique rapide des savoirs. On a d'autres textes qui sont plus représentatifs du XVIe siècle, mais qui ne critiquent pas de la même manière les savoirs. Je vais y revenir. La circulation des savoirs et le syncrétisme de la pensée. Bien sûr, on va lire du grec, bien sûr, on va lire de l'hébreu, bien sûr, on se cultive d'une manière radicalement nouvelle. Dans le principe, dans le détail de la vie ordinaire, quand on s'intéresse un peu à travailler sur un auteur particulier, comme j'ai pu faire pour mon doctorat, et puis depuis, hein, dans des groupes de recherche, on s'aperçoit quand même que le XVIe siècle est un petit peu, justement, un peu comme la civilisation Internet, un siècle de citations rapides, d'ouvrages doxographiques, c'est-à-dire d'ouvrages de recueil de sentences, de recueil de citations. On fait tourner la citation et on n'est pas toujours extrêmement précis dans la manière de citer. Hein. Le XVIe siècle n'est pas un siècle qui redécouvre entièrement l'Antiquité par le grec et le latin. C'est pas vrai. Hein, c'est un texte qui fait circuler beaucoup de textes de grec et de latin à travers des citations, à travers des... Vous voyez, si j'ai signalé aussi les œuvres morales de Plutarque et la traduction de Jacques Amyot en 42, je crois, en 1542, c'est parce que ça, c'est le grand best-seller de l'époque. Tout le monde a lu son Plutarque. Les œuvres morales de Plutarque, traduites donc en français, sont un ensemble de recueils sur les faits, de recueils d'expériences, de sentences morales, d'avis divers, qui peuvent aller même jusqu'à des questions très pratiques. Et ça, c'est ça le best-seller du XVIe siècle. C'est beaucoup plus ça que d'aller reprendre le texte d'Aristote, d'aller reprendre Platon dans le texte en grec. Donc il y a là des nuances à apporter que j'apporterai rapidement. Le prince et la foi, ça reste les deux éléments essentiels, et je prendrai un texte là-dessus. Et cosmos et chronos, le temps et l'espace, hein, se modifient, mais pas de manière aussi radicale qu'on le dit. Et puis, je prendrai une étude de cas, un grand texte, le sonnet pour Hélène, que vous connaissez tous, quand vous serez bien vieille, et sur une phrase de sonnet que j'ai travaillé particulièrement, on peut voir que les choses ne sont pas simples, qu'il n'y a pas une lecture de ce texte, mais qu'il y a un feuilleté de signification qui est très caractéristique du XVIe siècle et de sa manière de faire fonctionner le sens. On empile, comme dans un millefeuille, des couches de sens. Donc, nous sommes encore dans un siècle qui nous échappe par beaucoup d'aspects. Je ne sais pas si vous arrivez à lire celui-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette graphie apparemment cursive. Blaise de Montluc, donc grand pourfendeur de protestants, hein, qui travaillait pour son prince, pour le roi de France, catholique. Texte émouvant dans ses commentaires, hein, parce que, comme souvent, les grands généraux, ils sont désavoués par le politique au bout d'un moment, et ils en conçoivent une telle vertu qu'ils sont obligés d'écrire pour compenser. Et c'est un peu l'histoire de Blaise de Montluc. Hein, il a massacré, il faut bien le dire, énormément de protestants, dans tout le sud-ouest plutôt, hein, venu un peu jusqu'à Uzès, je crois, ici, mais il n'a pas trop sévi dans la région. En revanche, je suis un peu Rouerga jusqu'à Villefranche-de-Rouergue, jusqu'à la région d'un ouest assez proche d'ici. Il a beaucoup sévi. Et il a développé donc une terreur, mais explicitement, son texte dit comment il développe cette terreur pour contrôler les populations. Et dans ce texte, tout simplement, qui ouvre ses commentaires, il dit très simplement qu'il s'est retiré donc à l'âge de 75 ans pour trouver un peu de repos et qu'il a beaucoup souffert. Alors, il est juste avant de se mettre à écrire, dans les années 70, il a pris une arquebusade en pleine tête et il a le visage déformé, une gueule cassée avant l'heure. Et il a des souffrances atroces et donc il essaie de se justifier parce qu'en plus le roi de France l'a plutôt désavoué, ne lui a pas donné, disons, la reconnaissance que lui aurait, qu'il aurait dû lui donner en fonction de ses services rendus. Et donc j'ai mis en rouge très simplement, de manière un peu trop pédagogique sûrement, hein, les éléments qui doivent être relus dans ce texte, hein, pour le service des rois mes maîtres, c'est sa première justification. La deuxième justification, parce qu'il s'accuse, disons indirectement, d'un péché d'orgueil. On ne le dit pas comme ça, mais c'est ça. Et puisqu'il écrit lui-même le commentaire de sa vie, c'est donc qu'il il est peut-être dans un péché d'orgueil et qu'il aurait dû le laisser écrire par d'autres. Mais il le précise, je leur dirai pour toute réponse, qu'en écrivant la vérité et en rendant l'honneur à Dieu, ce n'est pas mal fait. Rendre honneur à Dieu, deuxième grand élément qui construit ce capitaine du XVIe siècle catholique. Et puis, le dernier point, mais qui est très XVIe siècle, précisément, c'est de se référer à César, qui en a montré le chemin avec ses propres commentaires, la guerre des Gaules. César m'en a montré le chemin. Voilà. Le prince, Dieu, Rome, l'Antiquité, voilà ce qui justifie un homme du XVIe siècle, qui n'est pas, disons, un intellectuel, qu'un soldat. Et vous voyez que le XVIe siècle n'était pas aussi moderne et aussi brillant qu'on pouvait le penser dans le premier mouvement. Là, on a un enracinement d'une pensée du politique dans quelque chose qui est totalement théocentré. Hein, c'est Dieu qui m'ordonne. C'est le prince, c'est-à-dire le roi, qui ordonne aussi mon action. Et mon action, je la construis entièrement dans ce cadre-là. Donc là, la pensée du XVIe siècle n'est pas celle de Machiavel, vous voyez. Elle est peut-être plus celle de Montluc. Et en tout cas, pour penser les guerres de religion, pour penser la violence de ce siècle, il faut probablement repartir sur ces hypothèses qui sont loin d'être aussi laïcisées, hein, qu'on aurait pu le penser dans le premier mouvement. Alors, là, je donne des références pour ne pas trop être uniquement sur les textes. La question de la modification de l'imaginaire, ce qu'on appelle l'épistémie en termes un peu savants, c'est-à-dire en fait, c'est un concept produit par Michel Foucault dans les années 60, qui définit l'épistémie comme les conditions un peu sous-jacentes à toute une série de discours différents qui peuvent être produits. Pour le dire simplement, je dirais, c'est un petit peu notre boîte noire, hein, qu'on n'explicite pas toujours, et qui nous permet de dire des choses et de penser des choses. Il y a des choses qu'on ne pensera pas parce que notre boîte noire ne nous permet pas de les penser. Et cette boîte noire, qu'on fasse de la géographie, de l'histoire, des sciences naturelles ou autre chose, elle nous est commune parce qu'on vit dans un même cadre mental, on pourrait le dire comme ça, hein, dans un même cadre mental. Donc c'est un peu ça que j'évoque par la question de l'épistémé. En gros, qu'est-ce qui conditionne la pensée, la vision d'un homme du XVIe siècle qui lui permet de penser, hein, la politique, le monde, l'espace, le temps, la guerre, qu'est-ce qui lui permet de le penser dans le sens d'une laïcisation ou au contraire peut-être d'un maintien dans une véritable vision théocentrique. Là, je renvoie simplement à des travaux et je les cite pour mémoire, mais Claude Gilbert Dubois dans l'imaginaire de la Renaissance a bien montré comment l'espace pour un homme du XVIe siècle est un espace qui n'est pas comme le nôtre. L'espace est un espace saturé de signes et de signes du divin. Tout fait signe, tout fait sens. Hein. La semaine prochaine, je travaillerai sur ce qui nous paraît aujourd'hui une des affabulations, des délires proprement verbaux, sur des étymologies. Hein. On va s'inventer des choses absolument ahurissantes. Ça nous paraît aujourd'hui un pur délire. Au XVIe siècle, c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'ordre des choses et qui est même nécessaire. Hein. On doit penser le monde à partir de tous les signes qu'il produit. Et tout fait signe. et le temps, chronos, hein, le temps est double. On a un temps qui est le temps des origines, le temps universel, syncrétique, qui met en continuité Adam et Ève, l'Ancien Testament, l'Antiquité grecque et romaine, le Nouveau Testament, et jusqu'au temps moderne. Tout ça s'est pris dans une continuité qui n'est pas scindée. Hein. On a une vision homogène de ce temps, qui est le temps de la Bible, et qui est le temps de l'histoire. Et on pense le temps de l'histoire à partir du temps de la Bible, dans une réversibilité absolue. Donc ce temps-là n'est pas un temps, vous voyez, qui permet de laïciser grand-chose en termes de connaissances. Et puis on a un temps nouveau quand même, qui est le temps de l'expérience de soi, de ce qu'on appelle le passe-temps d'amour, le passe-temps en général, hein, qui est un terme qui revient souvent au XVIe siècle. On évoque le passe-temps. Et là, c'est quelque chose de plus moderne, ça, qui permet de penser l'individu dans son expérience de plaisir, de souffrance aussi parfois, mais qui lui permet de se construire, disons, dans une logique individuelle, et qui va construire progressivement, et je reviendrai la semaine prochaine, un sujet moderne, un sujet qui se pense là dans des termes assez voisins des nôtres. Et pour revenir à Michel Foucault, donc, et à cette définition d'un épistémé, hein, à la fin du XVIe siècle, on a une structuration, c'est une formule un peu abrupte et qui mériterait commentaire, mais je vous la donne comme ça. La structuration mentale, disons, est liée à la présence des signes du divin dans un monde continu et fini. Voilà, on est à peu près dans cette sphère de pensée. Et la manière de concevoir les choses est entièrement fondée sur la similitude et la ressemblance. Alors bon, Michel Foucault, dans Les mauvaises choses, a des premières pages tout à fait captivantes là-dessus, où il montre que telle plante, parce qu'elle a telle forme, doit soigner telle partie du corps, par exemple, bon, il écrit. Hein, on est sur ces éléments parce qu'elle ressemble à une partie du corps, elle soigne donc cette partie du corps. Ce sont des démarches mentales quand même du XVIe siècle, fait très facilement, et ce n'est pas parce qu'il serait, je dirais, simple d'esprit ou qu'il manque la culture. C'est au contraire une marque très forte de culture et de savoir peut-être dans ces logiques-là. Alors, j'en viens à ma troisième partie de ma deuxième partie, le sonnet, une application sur un sonnet. On ne va pas le lire dans cette forme, qui est un peu barbare. Juste, je vous la présente parce que ça nous montre que le sonnet, nous avons bien appris tous au lycée souvent, pour passer le baccalauréat, vous voyez, n'a pas exactement la forme aussi scindée qu'on lui donne dans les mises en page modernes. Le sonnet est beaucoup plus compact, les deux quatrains et les deux tercets sont rassemblés. Hein. Bien sûr, il y a l'imprimerie, mais vous voyez bien que même la langue est dans ses aspects orthographiques et dans ses aspects graphiques. Les S qui se confondent avec des F, etc. Est une langue qui ne se lit pas tout à fait comme aujourd'hui. Hein. Et bon, ça pourrait être anecdotique, ça ne l'est pas tout à fait. Hein. C'est aussi un rapport à l'écrit qui est quand même structuré par ce genre de texte. Là, on se reconnaît un peu mieux. Je ne vous relirai pas donc ce poème, hein, dont on connaît tous les aspects, hein, le carpe diem de la fin, etc. Une tonne de documentation sur les origines de ce sonnet, qui pourrait être un petit peu chez Catulle, un peu chez Tibulle, chez les auteurs latins, hein, la poésie amoureuse latine. On sait aussi qui est Hélène de Surgères, on sait que ça s'adresse à la cour autour de Catherine de Médicis, on sait des tas de choses, enfin bon, bref, la critique littéraire aime bien savoir, donc on sait beaucoup de choses sur ce texte. Je ne vous les prends pas par le commencement, et je ne vais pas épuiser la question, ça prendrait beaucoup trop de temps et ce ne serait pas très productif. En revanche, quand on voit des formulations comme « Je serai sous la terre et fantôme sans eau, par les ombres myrteux, je prendrai mon repos », vous voyez qu'il y a là quand même quelque chose qui nous interroge. On a une espèce d'évocation, on pourrait dire hyper réaliste, hein, le terme n'est pas tout à fait consacré en critique littéraire, mais une vision un peu hyper réaliste de la mort, hein, une manière d'accentuer quelque chose qui est d'habitude le domaine un peu de l'impensé ou de l'impensable quand même. Hein. Et vous voyez que le XVIe siècle est capable de parler de la mort d'une manière qui aujourd'hui nous échapperait un peu, je pense. Enfin, il y a une espèce de projection sur une réalité de la mort qui est assez étonnante. Mais c'est que précisément dans ce siècle, on est constamment dans la réversibilité entre le vivant et le non-vivant, hein, entre la vie d'ici-bas et la vie d'en haut, entre nature et culture, entre nature et surnature. On est constamment sur des seuils et des passages. Et je prendrai simplement cette phrase, vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain, etc. Et donc il va essayer de séduire Hélène, vous savez bien, c'est le vieux ronsard, hein, grisonnant, qui essaye de séduire la jeune Hélène, hein, qui fait partie de l'escadron qui environne Catherine de Médicis. Et alors, on a dit que ce n'était pas pour lui, mais que c'était pour un prince qui voulait faire la cour à Hélène. Bon, passons. Vous serez au foyer une vieille accroupie. Cette phrase m'a toujours un peu, moi, interrogé. Et en travaillant sur un auteur peu connu, Pierre Leloyer, qui travaillait lui-même sur Jérôme Cardan, un auteur milanais, très savant, médecin, inventeur du Cardan, d'ailleurs, hein, qui a produit des textes, alors comme font les hommes du XVIe siècle, surtout, grand spécialiste de la résolution d'équations du troisième et du quatrième degré, il y a quelques ouvrages là-dessus récemment qui ont un peu vulgarisé aussi cette personnalité de Jérôme Cardan, hein, le médecin milanais. Dans son en 1550-1551, Jérôme Cardan présente une anecdote, parce qu'il est très attentif au surnaturel. D'ailleurs, il pense qu'il a un démon familier qui l'accompagne, un bon platonicien. Il pense qu'il est donc un peu marqué par les dieux. Et il accorde alors une attention très particulière à tout ce qui est l'ordre du prodige ou du miracle. Et donc je commence par la fin, par le bas de la page, dans le Dererum Varietate. Quand on le traduit en français, qu'un auteur proche de Ronsard, d'ailleurs, traduit cela en français, au moment même où Ronsard écrit d'ailleurs les sonnettes pour Hélène, dans les années 1570-1575, apparaît auprès de la cheminée une vieille accroupie. Voilà comment traduit cet auteur proche de Ronsard cette phrase en latin, parce que le Dererum Varietate, comme le dit son titre, hein, est écrit en latin, bien sûr. Et en fait, rien ne permet de traduire comme ça. C'est de mémoire solette wideri sub camino anus. Enfin, je crois que c'est ça, correct en latin, ça. On a l'habitude de voir sous la cheminée une vieille. Voilà. Une vieille grand-mère. Bon. Et Leloyer, qui est un ami de Ronsard, plus jeune que lui, traduit par apparaît auprès de la cheminée une vieille accroupie. Et tout d'un coup s'ouvre alors cette béance du sens. On s'aperçoit que la vieille accroupie au foyer. N'est pas une invention de Ronsard, là, dans ce texte, pour être plus expressif. C'est quelque chose qui renvoie à un savoir très savant, en fait, derrière. Parce que Jérôme Cardan, ce n'est pas de la fantaisie. Hein, ce n'est pas de la fantaisie du tout. C'est un travail scientifique, hautement scientifique. Et donc, derrière, quand on parle d'une vieille accroupie au foyer, on fait référence à des savoirs savants sur les démons femelles, qui sont annonciateurs de mort, parce que c'est de ça qu'il est question chez Cardan. Hein. La femme accroupie sous la cheminée, la vieille, est en fait un démon, Cardan le démontre hein, par différents aspects, un démon qui va annoncer la mort de quelqu'un d'important dans la famille. Voilà. Il y a des démons qui apparaissent, ils sont annonciateurs de mort, une vieille accroupie sous la cheminée, c'est un démon qui annonce une mort. Alors, je ne vous dirai pas que Ronsard nous dit ça, mais quand on sait que Ronsard travaille très proche de Leloyer, qu'il connaît Jérôme Cardan, vous voyez bien que parler d'une vieille accroupie sous la cheminée, ça n'est pas simplement une expression, je dirais, imagée, une sorte d'audace stylistique. C'est probablement un savoir savant, un savoir de haute tenue qui est impliqué là. Et puis, c'est aussi un poncif plus littéraire. C'est mon point au-dessus, je lis ma diapositive à l'envers. Chez Mathurin Régnier dans ses satires, vous voyez aussi qu'il y a trois vieilles rechignées, chacune sur le cul au foyer s'accroupit. Vous avez aussi la même chose chez Rabelais, où vous trouvez aussi au début du siècle des vieilles accroupies qui sont en fait des sorcières, hein, bien sûr. Des sorcières ou des démons femelles. Hein, il faut être prudent. Et si on remonte encore d'un cran, toutes les pièces qui environnent la pièce, le sonnet quand vous serez bien vieille, sont des sonnets tous marqués par une présence du surnaturel. Hein, l'Est de Pharaon, la terre égyptienne, et bien sûr le Jourdain, etc. Tous ces textes-là sont des textes totalement en circulation avec un contexte biblique ou avec des contextes liés au surnaturel. On parle de forme douteuse. La forme douteuse, c'est quoi? C'est pas dans le sens moderne, mais c'est une forme dont on peut douter parce qu'elle n'est pas substantiellement présente. Hein, c'est une forme sans substance. Qu'est-ce que c'est qu'une forme sans substance? C'est un spectre hein, ou un fantôme, ce qui n'est pas la même chose au XVIe siècle. On est très précis sur ce terme-là. On ne confond pas le spectre et le fantôme. C'est une chose radicalement différente. Alors, le résultat de cela, sur ce vers, vous voyez comment on a un syncrétisme là, de la pensée, un syncrétisme d'une vision très complexe sur un seul mot, sur un seul vers, sur une expression dans ce vers, sur la vieille accroupie. Il y a un choix esthétique très clair, une sorte d'hyperréalisme, peut-être de fantastique même, hein, qui s'ouvre là avec ce vers. Il y a bien sûr un topos littéraire, mais il y a aussi des références extrêmement savantes à un public averti qui comprend très clairement que quand on parle d'une vieille accroupie au foyer, on ne parle pas d'une vieille accroupie au foyer. Mais on parle d'un démon femelle qui annonce la mort, qui est connecté à toute une série de phénomènes qui obsèdent beaucoup l'homme du XVIe siècle. Vous voyez donc que là, notre beau XVIe siècle est un XVIe siècle beaucoup plus noir, un XVIe siècle qui est constamment obsédé par la question du surnaturel, qui est un XVIe siècle en prise presque permanente avec la mort, et avec des représentations qui sont loin d'être l'objet d'une laïcisation des savoirs. Hein, la littérature en porte trace aussi. Alors, même chose sur ce texte d'Agrippa d'Aubigné, je ne vais pas avoir le temps de le développer, il faut que je m'arrête bientôt, mais vous voyez, quand on évoque, ce ne sont pas les grands, mais les simples paysans que la terre connaît pour enfants complaisants. La terre n'aime pas le sang ni les ordures, ni le sort des tyrans et de leurs mains impures, cordures, ni que sang. Les aimés, laboureurs, ouvrages, son beau sein de si belles couleurs, font courir les ruisseaux dans les vertes prés, par les sauvages fleurs en émail diaprées. Ou par ordre et compas, les jardins azurés montrent au ciel riant leurs carreaux mesurés, les parterres tondus et les droites allées. Les droiturières mains aux cordeaux sont réglées, ils sont peintres brodeurs et puis leurs grands tapis, noircissent de raisin et jaunissent. Voilà, le texte est quand même d'une beauté absolue, je trouve que c'est une force extraordinaire. Mais c'est pareil, c'est des textes qui se lisent dans leur superficie, dans leur superficialité, et en même temps, derrière, chaque mot ouvre à une béance de sens. Les grands, bien évidemment, on les a vus tout à l'heure chez Machiavel, hein, donc il y a une problématique politique derrière extrêmement forte chez d'Aubigné. Il y a, bien évidemment, dans l'appel au laboureur, quelque chose qui parle très directement à sa religion, puisque une des forces hein, de la religion protestante, c'est de s'appuyer sur les forces vives, disons, de la nation, hein, donc de travailler avec les laboureurs aisés, souvent, qui sont souvent les premiers réformés, ou les gens qui travaillent dans le commerce, ou les artisans, voire les intellectuels. Il y a tant et tant de choses dans ce texte, mais ce qui est certain, c'est que ici, la présence du sacré est bien évidemment indissociable de chaque partie du texte. On est dans une expression quasi biblique, hein, et d'Aubigné la revendique. Donc vous voyez bien qu'ici, on n'a pas affaire à une laïcisation des savoirs, on n'a pas quelque chose qui nous écarte d'une pensée théocentrée. On est très clairement, au contraire, à l'intérieur de ce qui n'est pas une hypothèse, mais une certitude, et c'est Dieu. Et Dieu est présent dans chaque signe du monde. Voilà cet autre XVIe siècle qui n'est pas, je dirais, absent. Alors, troisième point, et je finirai par là, je voudrais appliquer ça à une étude de cas pour essayer là aussi de renverser à chaque fois un peu la vapeur. Si je vous parle de ces discours et histoires des spectres, visions et apparitions, des esprits, anges, démons et âmes se montrant visibles aux hommes, divisés en 8 livres, dans lesquels, par les visions merveilleuses, prodigieuses, et prodigieuses apparitions advenues en tout siècle, et recueillies des plus célèbres auteurs, tant sacrés que profanes, est manifestée la certitude des spectres et visions des esprits, et sont baillées les causes des diverses sortes d'apparitions de cela, leurs effets, leurs différences et les moyens pour reconnaître les bons et les mauvais, et chasser les démons. Aussi est traité des extases et ravissements, de l'essence, nature et origine des âmes, et de leur état après le décès de leur corps, plus des magiciens et sorciers, de leur communication avec les malins esprits, ensemble des remèdes pour se préserver des illusions et impostures diaboliques. Quand vous avez lu le titre, vous avez à peu près lu tout l'ouvrage. Sauf que l'ouvrage fait 1056 pages derrière, et que c'est un ouvrage très sérieux. 1500, alors là 1600, c'est la version 1605, vous voyez au bas, 1605, mais la première version un peu plus allégée, un peu plus courte, et de 1586, c'est moi en gros c'est là-dessus que j'ai travaillé mon doctorat. Je fréquente ce monsieur depuis plus de 20 ans, un ami de 30 ans, on pourrait dire. Alors, voilà comment il ouvre son texte. En tous les propos communs et familiers, qu'en compagnie, l'on entame des choses qui semblent éloignées de la nature et sont écartées de nos sens, il n'y a rien de si prompt et de si ordinaire que faire marcher en place les visions d'esprit qu'on appelle spectres, et si ce qu'on dit d'eux est véritable. C'est une matière que volontiers on entremêle. Vous voyez que un siècle, quasiment en courant, enfin 1605-1609, après Erasme, on a à peu près la même inquiétude, c'est qu'il y a une crédibilité sur ces questions. Ici, nous sommes dans le mouvement de la contre-réforme après le Concile de Trente. Avec Erasme, nous étions dans ces ferments de la réforme qui reposaient des questions à la religion catholique et au dogme catholique, et qui mettaient en cause la marmite des prêtres et des moines. Ici, bien évidemment, c'est tout l'inverse. Et comment on va répondre à cette interrogation et à cette angoisse qui est commune à tout le XVIe siècle, qui est cette angoisse d'un surnaturel qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas et qui fait peur. Eh bien, on va bâtir une science des spectres, comme on a fait de celles qui tombent sous les sens. C'est-à-dire que y a des sciences qui sont liées à la vue, à l'ouïe, au toucher, tout ce qui est l'objet d'une perception, et donc d'une connaissance sensible, doit pouvoir faire l'objet d'une connaissance scientifique, ordonnée. Alors, science, dans le sens que donne un homme du XVIe siècle, car Descartes n'est pas passé par là. Donc, bien évidemment, nous ne sommes pas dans une logique où il y aura la preuve, l'expérience et la preuve. Nous sommes dans une logique où la science se construit sur l'accumulation d'éléments qui, tendanciellement, vont montrer que la chose est vraie, parce qu'ils sont très nombreux, et ils sont à peu près dans la même forme. Hein, c'est une science fondée sur des analogies de formes, et la multiplication de cette forme. D'où les 1056 pages. Hein, pour prouver que les spectres existent, il va falloir aligner les histoires de spectres pendant 1000 pages, à peu près. Alors, bâtir une science des spectres, c'est ce qu'il entend montrer. Alors, bien évidemment, il le dit bien, elle n'a pas rapport avec les mathématiques, qui sont des choses immobiles et insensibles, et moins des naturels qui regardent les mobiles et sensibles, mais bien des purs spirituels, singulières, dont les espèces, singulières et individus, sont éloignées de notre vue et se contentent en l'âme comme substance incorporelle et mobile. Voilà l'objet d'une science au XVIe siècle, à travailler sur des substances incorporelles et mobiles. Alors on dirait c'est peut-être de la théologie, mais non, c'est pas de la théologie. Ça, ce sont dans les sciences sacrées, la théologie. Là, c'est un profane, c'est un magistrat qui s'intéresse à cette question en bon catholique et qui essaye, parce que c'est un homme réputé extrêmement savant. Quand on consulte les... Il est enterré en 1635, à Angers. Quand on consulte les textes des chroniqueurs de l'époque qui racontent son enterrement, c'est le phénix de son âge. Bon, c'est un peu un éloge un petit peu convenu à l'époque, hein, c'est vrai. Mais enfin, c'est un très grand monsieur, pour Angers, en tout cas, et sa région. Hein. Et je vous dirais tout à l'heure quand même que des... Enfin, je vous le dis maintenant, le père Mersenne, par exemple, qui n'est pas n'importe qui au début du XVIIe siècle, hein, qui va dialoguer et critiquer les hypothèses de Descartes, est un homme qui va s'adresser à ce monsieur Le Loyer qui écrit ce texte, hein, il va s'adresser à lui comme à un homme de très très grand savoir. Donc vous voyez que nous ne sommes pas si éloignés que ça des sphères dans lesquelles va graviter Descartes, dans lesquelles vont graviter donc quelqu'un comme le père Mersenne, qui sont les grands intellectuels du milieu du XVIIe siècle, des grands savants, véritablement. Donc ce n'est pas, je dirais, un illuminé obscurantiste qui écrit ce texte. C'est un magistrat érudit qui passe pour être un des esprits les plus fins de son temps. Et il veut faire une science des êtres. Et comme ainsi soit que ces substances se communiquent et se fassent connaître autant par leurs effets, que par l'expérience il faut user du mot. Vous voyez quand même, il est un petit peu gêné quand même, parce que l'expérience du spectre, pas facile quand même, c'est pas une expérience reproductible. Hein, on peut reproduire la chute d'un corps, on peut reproduire des tas de choses, mais reproduire le spectre expérimentalement pour en vérifier qu'il y a une dimension expérientielle, hein, que ça, c'est difficile. Et donc, bien évidemment, le défaut, je dirais, de notre rationalisme dominant, qu'on repère tout de suite quand on est, bien sûr, qu'on parle depuis le XXIe siècle, hein, c'est que précisément, la seule expérience qu'il aura sera verbale, et pas du tout de l'ordre des faits. La seule expérience qu'il aura sera verbale, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des histoires de spectre, parce que c'est la seule manière de connaître. Et de là, donc, nous venons à la connaissance, bien que confuse, des universels, etc. Donc ça, c'est le bon aristotélicien. Hein, on part du fait singulier, et puis on remonte aux principes généraux. C'est le fonctionnement, disons, de la pensée aristotélicienne, en gros, sur les questions de connaissance. Hein, qui doute qu'on en puisse former une science aussi bien que des naturels et mathématiques. Et quand tout sera bien considéré, je crois assurément que des spectres, pardon, se peut faire une science. Et il définit ensuite, alors à partir de notions qui seraient très longues à développer, hein, c'est une affaire assez complexe. C'est le spectre, l'imagination d'une substance sans corps qui se présente sensiblement aux hommes contre leur nature, à leur bonne frayeur. Bon, l'imagination, il va l'emprunter à Thémistocle, etc. Je passe les détails. Alors, cet auteur, vous voyez, est extrêmement ambitieux. Un autre plus connu que vous connaissez peut-être, j'ai un reprint ici, donc c'est ses gros ouvrages, vous voyez, là c'est un reprint récent, hein, mais qui reprend à peu près la forme du bouquin de l'époque. C'est La démonomanie des sorciers de Jean Bodin, qui elle est assez connue, mais qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'elle est un petit peu exceptionnelle, ça n'est pas du tout la doxa que suivent les autres démonologues. Lui, par exemple, croit dur comme fer à la transmutation des hommes en bêtes, il croit à la lycanthropie, alors que la plupart des hommes, des autres, Le Loyer et ses collègues qui sont démonologues, ne croient plus tout à fait à la lycanthropie. Hein. Ils ont bien évidemment une foi dans le surnaturel qui est extrêmement grande, mais il y a certains éléments du surnaturel qui leur paraissent quand même difficilement acceptables. La lycanthropie, donc la transformation en loup-garou, hein, des sorciers, leur paraît excessive. Bodin, lui, il croit dur comme fer. Le transport au sabbat. Le transport au sabbat, par les airs, est quand même une chose qu'ils défendent, parce que ça leur paraît être une seule explication possible pour les sorciers, quand même. Hein. Pour moi, c'est difficile, s'il n'y a pas un transport par les airs au sabbat. Mais enfin, quand même, ils sont très, très, très embarrassés. Vraiment. Hein, ils cherchent, disons, des explications. Alors, je vous passe les... Parce que bon, ça prendrait énormément de temps, on n'arrive même plus à les formuler comme ils savent les formuler à l'époque. Mais en gros, qu'on est dans une espèce de logique d'illusion, mais qui va s'incorporer à un moment donné, etc. Enfin, c'est des catégories de pensée, je dirais, sur lesquelles nous ne fonctionnons plus. Et voilà comment Jean Bodin, lui, commence son texte. Hein. J'ai noté dans la marge récit et droit, donc je vous passe les détails, mais vous voyez bien que c'est toujours des récits très datés. L'expérience, elle est là, notamment dans les procès des cours de parlement dans lesquels on a jugé des sorciers. Voilà une expérience, je dirais, de ce surnaturel. Et je passe très vite hein, au texte suivant pour vous terminer. Très vite derrière, on passe à la définition du sorcier, et donc on produit des savoirs savants sur le sorcier, sur tous ces domaines. Alors ces textes ont été perçus par les historiens, Robert Mandroux dans les années 60, Delumeau plus tard dans les années 70, sur ce qu'on appelait la mentalité occidentale, hein, dans l'histoire de la peur en Occident, voient ces textes comme des textes plutôt régressifs, des textes obscurantistes un peu, et qui vont accompagner théoriquement la chasse aux sorcières. Donc vous savez qu'elle se déroule sur cette période-là, à peu près, 1550-1650, en gros, enfin, un peu avant, un peu après, et qu'elle a fait des ravages conséquents, disons, même si aujourd'hui, il y a plutôt des tendances à nuancer quand même le quantitatif. Peu importe, je ne suis pas historien, ce n'est pas mon propos. Mais on fait de ces textes des textes souvent très obscurantiste, régressif, réactionnaire, conservateur, enfin, ce que vous voulez, qui nous renvoie à une sorte de régression mentale vers une sorte de Moyen-Âge un peu obscur. En fait, moi, je suis persuadé du contraire. Hein. Alors là, je vous donne simplement les noms de ces quelques collègues, et on pourrait en faire une liste beaucoup plus longue. Martin Del Rio, jésuite, ami de Justelis, hein, et du niveau de Justelis, qui est un des très très grands intellectuels du nord de l'Europe, des Flandres, à cette époque. Pierre de Lancre, lui, est moins réputé. Ce n'est pas un intellectuel de même niveau, mais c'est un magistrat qui va travailler au Pays Basque et qui va là faire des ravages très conséquents chez les prétendues sorcières. Et son tableau de l'inconstance des démons en 1613 est un texte tout à fait intéressant par la qualité littéraire. Ses présentations des histoires de démons sont d'une force et d'une capacité évocatrice qui... s'apparente véritablement à une construction littéraire de très haute qualité. Noël Taillepied, lui, c'est un cordelier, donc un moine, mais vous voyez, qui est un érudit, il a travaillé sur les antiquités et singularités de la ville de Rouen. Henri Boguet, moins connu aussi, ce n'est pas un intellectuel de très haut niveau, mais c'est un bon magistrat, et lui, dans le Jura, va aussi faire des ravages assez importants. Nicolas Rémy, lui, a des textes aussi d'une extrêmement forte qualité littéraire. Le Loyer, donc, c'est le mien, celui-là, je me l'approprie, hein, je le connais bien. Lui est ami de Ronsard, poète, dramaturge, et considéré, encore une fois, comme un des phénix de son âge, quand il va mourir en... Alors les dates ne sont pas les dates de vie et de mort, hein, c'est les dates de publication des traités. Et puis, face à ces démonologues catholiques, réputés donc très obscurantistes, Jean Villers, Loïs Lavater, des médecins protestants ou un ministre de l'Église réformée de Zurich, qui vont écrire aussi, et eux, sur un mode qu'on dit régulièrement un peu plus moderne, c'est-à-dire qu'eux vont renvoyer à l'hypothèse médicale une série de cas de sorcellerie, ils vont renvoyer à une hypothèse naturelle une série de prodiges surnaturels. Bref, ils vont chercher à aller beaucoup plus du côté d'explications naturelles. Néanmoins, leur cadre d'interrogation des faits et de la réalité sociale qui est derrière sont absolument pas les mêmes. Et on a parfois tendance à simplifier en disant il y a ces démonologues catholiques qui sont, disons, acharnés dans la chasse aux sorcières, et puis les protestants qui modèrent un petit peu le point de vue. C'est globalement vrai, c'est un peu comme pour les images d'Épinal au début, c'est globalement vrai. Mais maintenant, c'est à nuancer fortement. Leurs modes d'approche des phénomènes sont absolument quand même dans les mêmes cadres mentaux. Il n'y a pas de différence majeure. Parce que les catholiques, là ici, la liste des démonologues catholiques, va aussi attaquer tous ces phénomènes en essayant de distinguer ce qui est prodige naturel, ce qui est illusion, et illusion produite par l'homme, par des artifices, des tours de magie, au sens banal comme pour les enfants. Tout le monde est quand même attaché à essayer de distinguer dans ces phénomènes prodigieux ce qui est renvoyé à l'état de nature, à l'invention de l'homme, et aux mensonges. Après, bien évidemment, c'est là que ça diverge. Entre un protestant et un catholique, la divergence va se faire sur les cas qu'on isole comme des cas quand même surnaturels. On ne va pas avoir les mêmes outils pour le penser, parce que le dogme catholique va proposer un purgatoire, des saints et donc des miracles. Et à partir de là, si vous avez un purgatoire, il y a des âmes qui vont apparaître pour venir quémander les prières pour pouvoir passer en paradis. Donc à ce moment-là, le purgatoire va être générateur, théoriquement, d'apparition de spectres. Pour un protestant, pas de purgatoire, pas besoin de ces âmes, où elles sont en paradis, où elles n'y sont pas. Elles n'ont pas besoin de revenir. Même chose pour les saints. Culte des saints très développé, donc apparition des saints. Absence de culte des saints, donc pas d'apparition de saints. Donc voilà, on a après des éléments d'explication qui vont amplifier le phénomène chez les catholiques, et qui vont le réduire chez les protestants en termes dogmatiques. Mais tout cela... nous amène donc à définir cette littérature comme un temps, je dirais, qui est tout à fait émouvant d'un point de vue épistémologique. Je ne sais pas si l'épistémologie peut être émouvante, mais pour moi elle l'est. C'est qu'on a failli assister à la naissance d'une science. Elle a commencé dans les années 1550, elle est très liée aux préoccupations du XVIe siècle, elle n'a rien de spécifiquement moderne dans ses attendus, mais dans sa démarche, elle est d'une rationalité extrême, car je vous passe les détails, mais dans ses gros bouquins, on a un développement, une construction rationnelle qui force l'admiration dans sa qualité, dans sa rigueur. Et ça commence en 1550 et ça va s'achever en 1650. Et dans ce siècle, on va voir une floraison d'ouvrages. Ce sont des ouvrages qui sont très réédités, qui sont très lus. Quand on fait les inventaires de bibliothèques, on trouve toujours chez les érudits de province et parisiens deux ou trois de ces ouvrages démonologiques. Ce sont des éléments, encore une fois, qui ne sont pas fortuits, qui ne sont pas de circonstances, c'est qu'on pense qu'une part importante du savoir est contenue dans ces ouvrages qui essaient de séparer ces deux choses essentielles, la nature et la surnature, qui sont vraiment une grande obsession du XVIe siècle. Et ça va s'éteindre très très vite. Je dois aussi préciser que c'est un phénomène européen. Je travaillais avec des collègues d'Oxford là-dessus, donc mes collègues anglais épluchent le fond britannique. Le roi Jacques Ier, au début du XVIIe, écrit lui-même un ouvrage démonologique qui correspond avec mon Le Loyer, là, que je vous ai présenté. Il correspond sur des questions de démonologie, de qu'est-ce que c'est un spectre, est-ce que c'est pas un spectre, etc. Il y a Reginald Scott, qui est un grand démonologue anglais. On trouve aussi des éléments en Allemagne, en Espagne, en Italie. Donc c'est un phénomène européen qui va vraiment produire un savoir. Et un de mes collègues d'Oxford, justement un jeune collègue d'Oxford, a essayé d'aller repérer dans tous les catalogues des foires du livre, notamment les foires du livre de Francfort, qui sont des grands rendez-vous européens à l'époque, comment on classe ces ouvrages. Alors, on ne va pas jusqu'à avoir un rayon démonologie. Elle n'est pas encore constituée comme science, donc on n'a pas cette étiquette qui définit une science, mais on les regroupe quand même souvent dans des rayons particuliers, dans philosophie naturelle, par exemple, ou dans d'autres catégories un peu divers, mais on les regroupe pour bien les isoler comme un champ de savoir qui s'est constitué et qui est tout à fait important. Donc, voilà comment se construit cette science et comment se déconstruit cette science ultime effort d'une rationalité appliquée à un objet qui ne se prête pas à un développement critique, puisqu'il ne possède pas, encore une fois, les éléments mêmes de la rationalité moderne fondée sur les faits et l'expérience. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu c'est ce qui est émouvant hein, dans cette très forte aspiration à construire une science. Alors, la caractéristique des grands éléments de cette typologie des textes démonologiques, hein, des polémiques, bien sûr, autour du dogme. Hein, ils s'étripent entre eux, entre protestants et catholiques, mais aussi entre catholiques. Hein. C'est très, très œcuménique, je dirais, dans la polémique. On tape sur tout le monde, en fait, hein, dans tous les sens, et de manière violente. Donc, à propos du purgatoire, des saints, des miracles, de l'exorcisme, l'apparition de Samuel à Saül, alors ça, dans le livre des rois, 25 et 26, c'est une affaire qui occupe tout le XVIe siècle, et puis qui occupait déjà l'Antiquité. Est-ce que quand Samuel, quand la pythonisse d'Endor invoque pour Saül, qui va combattre le lendemain, l'âme de Samuel, Samuel apparaît, est-ce que c'est Samuel? Alors ça, c'est une grande question. Donc là, et alors là, bizarrement, l'abbatère qui est protestant a la même thèse d'interprétation que le Loyer, qui est catholique, et qui attaque pourtant l'abbatère sur tous les autres plans. Mais sur cette question-là, ils se retrouvent ensemble. Voyez. Et ça, ça peut, on en fait des pages là-dessus. Hein. Parce que ça peut être, en fait, le vrai Samuel qui apparaît, mais c'est contraire à la logique de l'apparition divine, puisque c'est Dieu qui ordonne l'apparition. Pourquoi ce serait ici une sorcière, la pythonisse d'Endor, qui l'aurait forcée? C'est pas normal. Hein. Donc l'hypothèse, c'est que c'est plutôt un démon. Mais est-ce que c'est un démon, etc. Enfin bon, il y a 3-4 interprétations possibles depuis Saint-Augustin, hein, et en remontant par toute la tradition médiévale. Des questions plus ou moins théologiques, hein, qui sont théologiques, mais tous ces auteurs-là disent bien « je ne suis pas théologien ». Je suis magistrat, je suis prêtre, je suis moine, mais je ne suis pas théologien. Une argumentation très dense, et là vraiment il faut la lire, c'est souvent très très fort, sur l'immortalité de l'âme, les transmutations, comme ils disent à l'époque, le transport au sabbat, les marques du démon, la nature des spectres, enfin, surtout, c'est une vision globale du monde. Et puis, plus ou moins, alors, selon les auteurs, philosophiques, juridiques, on a des variantes sur ces textes. Le Loyer est très philosophique et très littéraire, il cite énormément les poètes grecs et latins. Bodin est plus juridique, bêtement juridique, je dirais, un petit peu étroit. D'autres sont plus faibles, disons, globalement, et sur les aspects philosophiques et juridiques. Mais surtout, ce qui manifeste la présence des faits, c'est les récits. Des récits antiques, modernes, fictionnels, historiques, tout ça c'est mélangé, et on ne fait jamais la différence hein, entre un récit qui est pris chez un auteur grec, qui est visiblement une fiction, prise dans le mythe même, dans le mythe grec, avec un épisode récent paru devant un tribunal. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Et puis on les transforme, alors là on s'amuse à ça en ce moment, hein, on est en train de pister des anecdotes, et alors là on les trouve, elles passent dans toute l'Europe, elles vont chez un auteur, chez un autre, ils ne disent pas qui est l'auteur, souvent, hein, et ils la transforment, et ils lui font signifier quelquefois exactement l'inverse de ce qu'elle signifiait chez un autre. Donc c'est un exercice, un sport, disons, intellectuel, absolument remarquable. Bref, je termine là-dessus. On voit bien qu'il y a une impossibilité à constituer une science du surnaturel, et qu'il y a une nécessité à constituer, en revanche, qui va s'appeler plus tard, mais un siècle plus tard, au XVIIIe, la littérature fantastique. Hein, c'est... Alors, l'aspiration, c'est à une rationalité plus forte, qui sépare le naturel du surnaturel, qui donne une prise sur le réel, et qui ordonne le monde sensible. C'est ça le grand effort des hommes du XVIe siècle. Et en cela, il y a bien effort de laïciser les savoirs. Mais elle est appuyée sur une représentation totalement liée à la présence de Dieu au cœur même du monde sensible et dans tous ses aspects. Elle est fondée sur la res literaria, sur la chose écrite, sur le récit écrit, et non sur l'expérience. Et bien évidemment, le dogme religieux, qu'il soit contesté ou défendu, est l'élément souvent de fil conducteur de cette pensée. Donc on a un échec de cette littérature scientifique au milieu du XVIIe, et je voudrais juste vous montrer cette méditation métaphysique de Descartes, qui commence à fonder le cogito à partir de l'hypothèse qu'on appelle classiquement l'hypothèse du mauvais génie, ou du malin génie. Ce mauvais génie ou ce malin génie est censé permettre à Descartes de refonder radicalement le doute, enfin de tout refonder, de refonder toute connaissance à partir d'un doute radical qui va l'amener à ne prendre comme certitude première que celle du cogito. Quand je relis ce texte, moi, et que je viens de lire les autres textes, je me dis que nous ne sommes pas si éloignés que ça. Ce texte-là est radicalement fondateur. Il va donner la possibilité de penser la modernité. Et en même temps, il est pris dans ces hypothèses de malin génie que nous voyons de manière très théorique, parce que nous lisons en théoricien Descartes. C'est une hypothèse toute personnelle, je ne l'ai jamais confronté à des spécialistes de Descartes. Mais moi, il me semble que quand Descartes fait l'hypothèse d'un malin génie, elle a une dimension beaucoup plus charnelle qu'on ne le pense, et il est quand même pris dans cette, à quelques années près, hein, dans ce contexte où le surnaturel est quand même très présent, et on a une familiarité avec ce surnaturel qu'on ne soupçonne plus aujourd'hui, comme ça dit. Voilà. Mais c'est une pure hypothèse personnelle, hein, je veux dire. Je conclurai donc rapidement. Laïcisation des savoirs, c'est la question que je posais à cette époque, et je vous disais que c'était une question qui nous intéresse parce que, par bien des aspects, cette époque est un peu bouleversée, comme peut l'être la nôtre, par la modification des modes de communication, par une violence exacerbée, par une déstructuration des systèmes politiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments dans le XVIe siècle qui nous interpellent. Alors oui, laïcisation des savoirs, dans le sens où, on l'a vu surtout avec le beau XVIe siècle, les savoirs se recentrent sur l'homme, sur le corps, les savoirs profanes et sacrés circulent dans tous les textes, et certaines représentations de l'espace, du temps, du pouvoir s'émancipent des présupposés théocentriques. Mais là aussi, il aurait fallu que je développe. Bien sûr, on peut parler de Copernic, bien sûr, on peut parler de Galilée. Mais après, si on regarde les présupposés sur lesquels ils construisent leur intuition d'un système héliocentré, par exemple, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Leur système de référence n'est pas le bon système, quand même. Hein. Donc, c'est tout à fait intéressant à creuser. Et puis non, bien sûr, dans le sens où le dogme reste au centre des préoccupations et où la connaissance scientifique ne s'émancipe pas, disons, du récit en général, de la res littéraire. Et donc, quels sont les éléments dynamiques qui expliquent que ce XVIe siècle est aussi complexe, aussi retors, où finalement des textes aussi conservateurs que ces textes démonologiques sont en même temps des trésors de développement d'une rationalité qui sera très proche de la rationalité moderne, à concurrence de son hypothèse première. C'est l'hypothèse première qui fait défaut. Et pour le reste, les principes mêmes de travail sont remarquablement modernes. Donc, ce XVIe siècle qui nous prend un peu toujours à contre-pied, qu'est-ce qui va le transformer radicalement de l'intérieur? C'est ce dont j'avais prévu, si vous souhaitez, parler la semaine prochaine, c'est la question du langage et du sujet. Sur cette question-là, du langage, les grands textes de la littérature du XVIe siècle vont radicalement changer les choses. Et la coupure épistémologique forte du XVIe siècle, elle est beaucoup plus sur la question du langage et de l'émergence d'un sujet moderne à partir du phénomène de langage que sur la question stricte des savoirs, qui eux sont, comme je vais essayer de le montrer, beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Voilà, je vous remercie. Peut-être que c'est un peu long et un peu assommant. Il y a des questions, c'est contestable, hein, ce que j'ai dit, on y a des points.
Hein. Oui. Ce n'est pas une question d'une contestation, c'est simplement une simple illustration parce que...
Oui, ce n'est pas une contestation, une remarque, mais une simple illustration. Au début, vous avez parlé des collèges, et vous avez parlé des collèges de province. Et alors, justement, Nîmes, 500 ans. Sans vouloir faire l'apologie de Nîmes, il y a un collège donc, qui est en liaison très étroite avec le milieu protestant, le milieu calviniste, et qui a démarré donc, au XVIe siècle dans cette lignée, dans cette entité. Il était animé pendant un certain temps par Jean de Serres, qui était donc le frère de la Grenoble. Et seulement, son histoire est très intéressante parce qu'au XVIIe siècle, il y a bien sûr l'édit de Nantes, et donc cohabitation catholique-protestant, et le collège a vu cette cohabitation catholique-protestant, à la réserve que c'était la politique rongeante et envahissante des jésuites qui, au départ, respectaient l'alternance. Par exemple, il y avait un professeur de 6e catholique, un protestant 5e, et ainsi de suite. Puis, très vite, le régent du collège, et lui était un jésuite. Et très vite, alors, on a partagé les locaux, et les catholiques, et ça se voit sur un plan de les catholiques dans un coin du collège, les protestants dans un autre coin, et puis les catholiques, enfin les jésuites ont fini par phagocyter complètement le collège au milieu du XVIIe siècle, à partir de 1750.
C'est dans les locaux de la chapelle des jésuites.
Chapelle des jésuites, justement, le collège. Le musée des antiquités, ouais. Le musée d'histoire naturelle aussi sont occupés des locaux du collège.
L'ancien collège, c'est ça, voyez. Oui. J'avais ça dans mes mémoires de Nîmes, mais je ne l'avais pas intégré dans mes.
Les bâtiments sont du 17e, c'est ça. Oui.
Merci pour cette précision.
parler peut-être un peu fort. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous consacrer à la démonologie comme ça, d'une part. Et j'aimerais savoir aussi si Montaigne, est-ce que mes connaissances de Montaigne ne sont pas assez approfondies? Je pense que vous pourrez me répondre.
Alors,
s'il s'est intéressé,
oui,
s'il a dit quelque chose là-dessus.
Alors Montaigne, c'est un chapitre fort connu, le chapitre des boiteux, où il dit, à propos des sorcières, « Purgez-les, donnez-leur de l'huile et bord, et ça suffira bien. » Donc Montaigne a cette vision. Alors c'est pareil, on simplifie toujours un peu. Montaigne dit ça, et c'est très moderne de dire ça, c'est-à-dire qu'il dit, bon, en fait, c'est des pauvres folles qui sont bien malheureuses, c'est médical, c'est naturel, leurs visions, leurs apparitions, etc., sont totalement fantasmées, et donc il vaudrait mieux les purger. En même temps, même chez Montaigne, je ne pense pas qu'on ait une position aussi moderne que ça. C'est-à-dire, on surinterprète ce côté moderne, mais ce qui est vrai, c'est que c'est même beaucoup plus sympathique d'entendre Montaigne, qui a cette position en fait de sceptique, hein, et qui pense que tout ce que racontent les dogmatiques un petit peu de la religion catholique sont quand même à prendre avec des pincettes, avec beaucoup de recul. Donc c'est une position qui est, je dirais, sympathique, parce qu'elle ouvre à une critique du dogme. Elle prend de la distance par rapport à ce phénomène social, donc ça c'est quand même très moderne. Au-delà de ça, on ne va pas faire une psychanalyse de Montaigne. Je pense que Montaigne pense quand même qu'il y a sûrement des phénomènes qui sont surnaturels et que le diable peut intervenir. Hein, je ne pense pas qu'il soit dans une radicalité absolument opposée. Mais c'est vrai que ce chapitre des boiteux, hein, très connu, montre un Montaigne très prudent sur la question de la société. Voilà. Alors quant à ma passion pour ça, je ne sais pas. C'est à la fois des hasards, puis une part sûrement démoniaque qu'on a en charge chacun de nous, qui est plus exorcisé, hein, puisque mon auteur est un des spécialistes de l'exorcisme. Non, je ne sais pas, j'ai pas de rapport à la foi non plus très fort là-dessus, enfin je ne suis pas croyant, mais en revanche je m'intéresse énormément depuis toujours au phénomène de la foi, et au phénomène de la croyance religieuse qui me fascine par beaucoup d'aspects. Hein, donc c'est une manière d'entrer dans les questions de croyance religieuse que de les aborder parce qu'il est défini un peu à la marge, quoi, hein, de manière... Par l'endroit où la croyance commence à dévier, quoi. Quand on commence à croire plus au diable finalement qu'à Dieu. Donc c'est ça probablement dans ma démarche personnelle. Puis après c'est des hasards, j'étais le premier poste d'enseignant à Angers, pour ne pas mourir idiot à Angers, on va à la faculté, et puis à la faculté on dit tiens, sur quoi je pourrais travailler, puis voilà, un prof passe par là, me dit tiens, mais on a un angevin célèbre sur lequel personne n'a jamais rien fait, et puis... De fil en aiguille, on s'intéresse à Pierre Leloyer, qui ne méritait peut-être pas cet hommage. Mais bon, c'est un personnage intéressant, Pierre Leloyer. Mais alors, ça crée des quiproquos étonnants. Quand j'ai soutenu ma thèse en Sorbonne, il y a maintenant un certain temps, bientôt 20 ans, le titre était apparu dans Le Monde, je crois, mais les avis de thèse. Et j'ai eu droit à tous les gothiques du quartier, parce que forcément, démonologie, ça leur paraissait extrêmement affriolant. Ils pensaient qu'on allait s'éclater avec l'histoire de démons, etc. Et ça a été une thèse la plus barbante qui soit, bien sûr, de soutenance avec un truc, les sources, machin, Aristote, Platon, etc. Bref, on a parlé de choses extraordinaires. Donc, ils sont partis à l'entracte. Hein. Et j'ai eu droit à une brochette de 5 ou 6 gothiques qui pensaient qu'on allait vraiment faire un carnaval. Un peu dans le genre, comment, machin, anglo-saxon, là, le moment, là. Halloween, ouais, je pensais que c'était Halloween. Donc voilà, c'est les hasards de la démonologie.
Vous avez des tentatives d'explication donc de la démonologie, et entre catholiques et protestants principalement, que pensaient les juifs à cette époque-là?
Alors là, je vous avoue que c'est une bonne question que je ne me suis jamais posée. Oui. Bon. Ce qui est sûr, c'est que les auteurs catholiques vont citer des auteurs juifs, Maimonides, etc., mais sur des questions théologiques, pour la question de l'immortalité de l'âme, pour des questions sur la réalité des apparitions. Hein. En gros, ils vont prendre dans le fond commun de la Bible, dont les juifs peuvent attester, tout comme les chrétiens, ils vont aller prendre des phénomènes... l'apparition de Samuel, je ne sais pas si elle voyait, oui aussi, puisque dans l'Ancien Testament... ils vont s'appuyer sur certains penseurs juifs, mais sur des questions, disons, théologiques, pour montrer qu'il y a une communauté, parce qu'il y a une dimension, pas œcuménique, mais pour essayer de montrer la réalité du phénomène, puisqu'on a quand même des débuts d'athéisme, le mot apparaît un peu à l'époque, hein, contre les athées. les sceptiques et athées pyrrhoniens, comme on les appelle souvent. On leur met tout. On lit, Le Loyer écrit des chapitres contre les sceptiques athées pyrrhoniens. Tout ça. Et pour montrer que, à ces gens-là, que la négation des phénomènes diaboliques ne peut pas s'appuyer sur une négation du principe général de la dimension spirituelle, ils vont chercher dans d'autres religions des éléments qui démontrent qu'il y a une dimension spirituelle. Et donc ils vont chercher chez les juifs, ils vont chercher chez les musulmans des preuves de l'existence de l'âme qui, même s'ils ne suivent pas le reste du dogme, leur paraissent utiles pour leur démonstration. Il y a même des choses encore plus étonnantes. Un collègue américain a voulu démontrer que ce Pierre Leloyer était le fondateur de l'ethnographie comparée. Ce qui me paraît complètement idiot, puisque c'est une vision a posteriori. Quoi. Bon, ça ne veut rien dire au XVIe siècle, l'ethnographie comparée. Mais concrètement, Leloyer, pour montrer que, par exemple, tous les peuples ont cru qu'il y avait une vie après la mort. Il peut le faire à partir du dogme catholique, mais c'est d'intérêt limité, puis on est entre chrétiens en général, donc ça ne va pas porter très loin. Pour donner de la force à son argument, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre tous les récits de voyage qui existent, et notamment les lettres des jésuites sur les pratiques des Japonais. Et il va montrer que chez les Japonais, on coupe les cheveux du mort pour les enterrer, je crois, avec lui. Enfin bon, il va décrire des pratiques rituelles d'ensevelissement qui montrent que si ces peuples-là ont ces pratiques-là, c'est qu'ils pensent qu'après la mort, ces peuples-là ont bien une croyance dans un au-delà, une vie après la mort. Et il va le chercher aussi avec Léon l'Africain sur les pratiques des Éthiopiens. Il va aller chercher chez les Indiens du Nouveau Monde, avec les récits de voyage de Pigafetta, etc. Donc là, il y a une sorte d'ethnographie comparée. C'est vrai qu'on pourrait le dire comme ça, même si ça n'apporte rien de le dire comme ça. Mais il va prendre, par exemple, les pratiques rituelles mortuaires, il va les aligner les unes derrière les autres, puis à la fin, il va dire, oui, quand même, il y a bien une vie après la mort, puisque les peuples, même les peuples qui n'ont pas eu la révélation christique, et qui sont donc dans l'erreur, ils croient quand même. C'est QFD. Donc vous voyez, c'est là que le XVIe siècle ne laïcise pas les savoirs, hein, clairement. Il est au contraire dans un réenfermement de tous les savoirs dans cet horizon d'un sacré qui serait finalement commun à tous les hommes et qui marquerait l'ensemble des cultures humaines. Mais alors sur les auteurs juifs, je ne sais pas s'il y a des démonologues à proprement parler qui, en tant que juifs, s'expriment sur la question de la démonologie. Ça, je n'en sais rien du tout. J'en ai pas vu dans mon périmètre, disons, de travail. Quoi. Le chercheur. Une très bonne idée.
Oui, je voudrais juste signaler un ouvrage de littérature que je suis en train de lire qui s'appelle Là où les tigres sont chez eux, écrit par Jean-Marie Robles de Robas et qui, entre autres péripéties du livre, utilise un manuscrit d'un jésuite qui a vécu entre 1620 et 1670, quelque chose comme ça, et qui est vraiment une illustration de tout ce que vous avez, dans ce dont vous nous avez parlé aujourd'hui, en particulier sur l'effort de démonstration logique par rapport à la religion, les démons, les démons, etc. Et c'est vraiment le jésuite dont il s'agit s'appelle Athanase Kirchner. Alors, est-ce que c'est une fiction ou est-ce qu'il a existé?
Non, il a existé.
Il a existé. C'est un livre qui a l'air extrêmement documenté. Hein.
Je l'ai croisé, mais alors à quelle occasion je le sais plus.
Kirchner a ouvert les études coptes et s'est engagé sur l'étude, disons, de la sagesse égyptienne en essayant de donner un sens à. Au système hiéroglyphique, mais en 1600 pas. Mais il a quand même innové vers la voie des études coptes. Et ça a été une étape très importante sur laquelle, après, d'autres se sont, comme Beresque de Alex ou d'autres.
Mais là, c'est le développement, disons, déjà de la deuxième moitié du 17e. On part sur d'autres logiques aussi à ce moment-là. Extrêmement plus fort. Les jésuites, ils ont prennent toute leur force à ce moment-là. Là, au début, les jésuites sont quand même un peu à la marge des phénomènes, même si Del Rio est jésuite, hein, par exemple, dans les démonologues. Par exemple, là, les aspects jésuites dans les textes démonologiques que je travaille, c'est les récits de que les jésuites font de leur mission en Extrême-Orient. C'est une chose comme ça. Ça va guère au-delà, ou en Amérique du Sud. Alors après, c'est une analyse plus fine à faire sur le rapport avec la contre-réforme. Jusqu'où sont impliqués ces démonologues dans la contre-réforme. Et là, c'est variable. C'est variable. Ça bouge très vite. C'est-à-dire qu'il faut les suivre année par année, parce que entre 1595 et 1605, il se passe tellement de choses que les positions peuvent. Avec les mêmes termes, on n'a pas les mêmes positions, en gros. Hein. Les mêmes thèses ne veulent pas dire les mêmes choses, quoi, à 10 ans d'écart. Donc c'est un travail, là, après, très, très complexe, de suivi de la valeur, disons, strictement polémique au sein de la religion chrétienne, catholique, de ces prises de position démonologiques. C'est un travail un peu ardu. Voilà, je ne sais pas, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut se quitter. Est-ce que ça vous intéresse que je parle la semaine prochaine de ce 16e siècle encore, mais à travers des éléments, encore une fois, qui dans la littérature vont faire bouger radicalement le point de vue qu'on a sur l'homme, à travers la question du langage notamment, ce que montrent, si les collègues sont profs de lettres, les mêmes ici, je pense, la question, disons, du dialogisme, quoi, qui s'installe progressivement dans les grands textes du 16e siècle, et qui crée donc un regard distancié sur l'homme, chez Marguerite de Navarre notamment, qui est une de mes préférées, et puis chez quelques autres. Donc je peux parler de ça la semaine prochaine, si ça vous convient. Moi, je peux changer aussi de sujet, enfin, je suis malléable. Ah, merci. Voilà, en espérant ne pas vous avoir trop ennuyé avec ces questions.
Merci.
Merci à vous. Merci.